Salut les parents en forme. Pourquoi est-ce que chaque année on prend des bonnes résolutions? Pourquoi est-ce que chaque année on n'arrive pas à s'y tenir? Ou en tout cas dans l'immense majorité des cas et pour l'immense majorité des gens, c'est ce qui se passe. On prend chaque année de bonnes résolutions à chaque fois qu'il y a une nouvelle année parce qu'on a ce sentiment de nouveau départ, de renouveau, de nouvelles chances et qu'on a tous envie de s'améliorer. Et de progresser et d'évoluer ou de changer tout simplement. Et du coup, on utilise ce prétexte de nouvelle année pour dire c'est le moment d'enclencher ce changement. Alors, c'est un peu étrange là parce que je vois un peu le décor derrière moi. Je suis au Cambodge là. C'est pas forcément le décor classique pour une nouvelle année, hein. Il fait pas froid, il fait pas nuit, il n'y a pas de neige. Enfin, il fait pas de nuit. Pas encore, ça va pas tarder. Donc c'est un environnement assez particulier pour vous parler de ça, mais n'empêche que voilà, à l'approche de cette nouvelle année ou une fois que la nouvelle année vient d'arriver, donc meilleurs vœux si vous voyez cette vidéo en début d'année et pas en fin d'année, on veut à chaque fois, on va prendre ces bonnes résolutions. À chaque fois, c'est traditionnel, c'est culturel. Si on n'y a pas pensé nous-mêmes, on va avoir nos proches qui vont y avoir pensé et qui vont nous poser la question. Alors, c'est quoi tes bonnes résolutions pour cette année? Et encore une fois, on a cette envie de changement, on a cette envie de progresser, cette envie d'évoluer. C'est pour ça qu'on se fait souvent avoir par le piège des bonnes résolutions. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi on n'arrive pas à s'y tenir à ces bonnes résolutions et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour y arriver. Il y a 7 étapes à suivre pour transformer ces bonnes résolutions en concret, vraiment, pour les concrétiser et pour arriver à s'y tenir. Et c'est ce qu'on va voir là, ensemble, dans cette vidéo. Ces bonnes résolutions qu'on prend chaque année sont sincères. C'est en général quelque chose qu'on ressent profondément au fond de nous, quelque chose qu'on a réellement envie de faire. Ça peut être arrêter de fumer, ça peut être en meilleure forme, en meilleure santé, mieux manger, moins boire d'alcool, je sais pas, ça peut être des tas de choses et on a finalement, particulièrement dans le domaine du bien-être, de la forme et de la santé. On a tous envie d'être en forme, on a tous envie d'être en bonne santé et on prend tous des bonnes résolutions dans ce sens-là. D'ailleurs, à chaque nouvelle année, on dit bien et la santé surtout, quand on souhaite plein de bonnes choses aux gens, à nos proches, à chaque fois, ce qui revient systématiquement, c'est et surtout la santé, c'est le plus important. Et souvent, les bonnes résolutions qu'on prend vont dans ce sens-là, vont dans le sens de la santé. Et ce qui est très bien avec ces bonnes résolutions, c'est qu'elles permettent d'identifier des choses qui vont pas, d'identifier facilement des choses qu'on a envie de changer. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est super. C'est-à-dire que si on a envie de prendre la résolution d'arrêter de fumer, c'est qu'on sait qu'à un moment donné, le fait de fumer implique des choses qu'on ne veut pas. Donc voilà pourquoi on veut arrêter de fumer. Ou on prend la bonne résolution de faire du sport plus souvent, parce que on sait que faire du sport plus souvent nous apporterait autre chose. Mais c'est justement là la limite de ces bonnes résolutions, c'est que ça nous permet simplement d'identifier quelque chose qu'on ne veut plus. Et donc, dans l'esprit où on prend une bonne résolution, c'est on arrête de faire quelque chose qu'on faisait, alors que on n'a pas identifié pourquoi on voulait arrêter ça et qu'est-ce qu'on recherche profondément derrière grâce à ça. Qu'est-ce que le fait d'arrêter de fumer, pour reprendre l'exemple, va nous apporter? Qu'est-ce que le fait de faire plus de sport va nous apporter? Et c'est pas les bonnes résolutions, du coup, ne peuvent pas être tenues sur le long terme parce qu'il y a cette notion de négatif, d'arrêter de faire ci ou d'arrêter de faire ça qu'on faisait. Et il n'y a pas de notion de positif derrière, il n'y a pas de notion consciente en tout cas du positif derrière. Donc la bonne résolution, c'est vraiment un résultat qu'on voudrait, mais sans plan pour y arriver. À l'inverse, si on met en place un but à la place de cette bonne résolution, un but à atteindre, là on va avoir du concret, on va avoir une bonne raison de le faire et surtout on va avoir un plan pour y arriver. C'est là la grosse différence. C'est plus un souhait. Ça devient un objectif avec les bonnes choses de mise en place et les 7 étapes qu'il faut suivre, du coup, une fois qu'on pense en termes de but plutôt qu'en termes de résolution. La première des 7 étapes pour transformer une résolution en un résultat réel, concret, tangible, ça va être de prendre une décision et de s'y tenir. Parce que si on veut être en forme et en bonne santé, il ne suffit pas de faire un ou deux entraînements ou un ou deux bons repas pour qu'il y ait des miracles qui se produisent. Ça va être vraiment la constance et les habitudes de vie qui vont faire que ça va tenir sur le long terme. C'est pas parce qu'on aura tenu 2 semaines qu'on aura vraiment tenu notre résolution. Dans l'esprit de notre résolution, on veut du long terme, on veut du résultat durable. Eh bien, les résultats durables sont forcément liés à des actions durables et répétées dans le temps avec une fréquence suffisante. Sans forcément que ce soit tous les jours, en tout cas, ça doit être suffisamment souvent pour obtenir ce résultat voulu. Donc la première étape, c'est de prendre cette réelle décision de je veux ça et je vais l'avoir et je vais faire ce qui doit être fait pour l'avoir. C'est plus un souhait, là encore, ça devient un but réel à atteindre. Ça, c'est l'étape, la première étape indispensable et dont tout le reste va découler. La deuxième étape, c'est de noter ce qu'on veut vraiment, ce but, de le noter noir sur blanc, idéalement sur un vrai papier physique à la main et l'écrire, à défaut sur un ordinateur, sur un smartphone, etc. Mais l'écrire quelque part, ça marche mieux si c'est à la main. Parce que vous connaissez forcément le dicton qui dit femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Eh bien, c'est but noté, but à moitié réalisé. C'est exactement la même chose. Le simple fait de l'écrire, de le formaliser verbalement, mais à plus forte raison de l'écrire, le cerveau va l'assimiler, va assimiler cette idée et va commencer à, je schématise un peu, mais va commencer à connecter des fils qui vont permettre de trouver des solutions pour atteindre ce but. C'est plus une idée en l'air, c'est quelque chose de concret qu'on a matérialisé. Voilà, je veux obtenir ça. Ça envoie le signal au cerveau. Trouve-moi les ressources pour arriver à faire ça. Si tu les as pas déjà, trouve-moi les ressources pour arriver à faire ça. Ensuite, il va falloir être très clair sur les raisons qui vous poussent à aller chercher ce but-là et obtenir ce que vous voulez obtenir et ce que vous avez écrit à l'étape 2. L'étape 3, c'est vraiment comprendre pourquoi, avoir de la clarté sur pourquoi vous voulez ça. Dans quel but? Parce que il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura toujours des moments dans votre vie, dans votre quotidien, où ça va être beaucoup plus compliqué d'arriver justement à vous entraîner régulièrement, d'arriver à mieux manger, de respecter les engagements que vous avez pris. Il y a des jours, ça va être facile peut-être, tant mieux si c'est facile, mais il y aura forcément des jours où ça sera difficile. Et les jours où ça sera difficile, pour ne pas abandonner, il vous faut une bonne raison, une raison suffisamment puissante de ne pas abandonner. Donc, un motif, si le pourquoi vous parle pas, si la raison vous parle pas, un motif. Qu'est-ce qui a fait en fait que vous voulez atteindre ce but-là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie concrètement? Qu'est-ce que vous pensez que ça va changer dans votre vie? Parce que ça n'a même pas besoin d'être vrai, vous avez simplement besoin d'y croire. Même si c'est faux, vous avez simplement besoin d'y croire. Si vous pensez que de perdre 10 kilos va vous rendre l'homme ou la femme la plus sexy de la planète et que vous aurez tout le monde à vos pieds, et bien, du moment que c'est suffisant pour vous motiver, vous avez plus de chances d'atteindre votre but parce que dans les moments difficiles, vous aurez ça en tête. Si pour vous c'est important, et là c'est là justement l'intérêt de cette étape, c'est de préciser ce qui est important, quelle est la raison derrière tout ça, qu'est-ce que vous voulez réellement obtenir à travers ce but-là. Pourquoi c'est important pour vous d'atteindre ce but-là, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes, par rapport à la vie idéale que vous imaginez. Et ça aussi, si vous pouvez le noter, ça sera d'autant plus puissant. Si vous le notez juste en dessous du but, ça sera d'autant plus puissant. Votre cerveau va se l'approprier davantage et ça vous permettra de mieux en profiter et finalement de mieux l'utiliser au quotidien et de l'avoir plus en tête. Parce qu'il ne suffit pas de le noter, il faut vous en souvenir. Il faut dans les moments difficiles que vous en rappeliez de ce pourquoi, de ces raisons, de ces motifs. L'étape 4, maintenant que vous vous êtes engagé, maintenant que vous savez ce que vous voulez, que vous l'avez noté, maintenant que vous avez plein de bonnes raisons d'aller chercher ce que vous voulez. Il va vous falloir un plan pour l'obtenir et il va vous falloir passer à l'action pour l'obtenir. Ça, c'est une seule étape, les deux ensemble. Étape 4, les deux ensemble. Il vous faut un plan et il faut que vous passiez à l'action pour appliquer ce plan. C'est pas le tout d'avoir un plan. Il faut le mettre en application pour obtenir vraiment des résultats. Côté alimentaire, côté sportif, côté mindset, ça, les trois points les plus importants, les trois axes pour votre forme, pour votre santé, vous devez forcément travailler sur ces trois axes-là, ça c'est évident, et il vous faut un plan qui prend en compte ces trois axes-là. Peut-être que vous avez déjà une idée de ce plan, de ce qui pourrait être. Vous pouvez partir là-dessus. Si vous ne savez pas, la première étape de ce plan, ça va être d'aller chercher les ressources qui vont vous permettre de créer la suite de ce plan. Ça va être de trouver, où est-ce que je peux trouver des bonnes infos? Auprès de qui je peux trouver des bonnes infos? Ou auprès de qui je peux trouver de l'aide? Au sens large du terme. Ça peut être des informations, ça peut être de l'aide concrète. De l'aide concrète et un accompagnement concret. C'est d'ailleurs la meilleure option si vous voulez optimiser vos chances de réussite, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un qui sait faire, qui l'a fait et encore mieux si possible qui aide les gens à le faire. À défaut, déjà d'avoir des infos, des bonnes infos, c'est indispensable. Donc, si vous ne faites pas accompagner, au moins pour que vous ayez des bonnes infos pour que votre plan soit fiable, que vous ne perdiez pas votre temps avec votre plan. Donc, trouvez ces ressources-là, faites-vous votre plan. Il peut être très chronologique en mode étape par étape, il peut être très global sur une longue période où ce serait toujours la même chose à faire et à répéter chaque jour. Moi, je suis plus un partisan de ça, même si la plupart du temps, les plans, c'est étape par étape. En vrai, pour rester en forme, il faut faire les mêmes choses quotidiennement ou quasi quotidiennement. Il faut bien manger, il faut faire de l'exercice, il faut le faire de la bonne manière, tout ça, bien sûr. Bien manger et faire de l'exercice, c'est vague. Il faut le faire de la bonne manière, faut que ça aille bien ensemble pour que ça fonctionne. Mais il faut faire ça tous les jours ou presque tous les jours. Donc, il n'y a pas d'étape forcément à respecter, mais il y a en tout cas un plan à suivre et des directives à suivre. Il faut que vous ayez des directives très précises et que vous les mettiez en application. Ça, c'est l'étape 4. L'étape 5, sur ces 7 étapes, la cinquième étape, c'est de mesurer les résultats que vous avez obtenus avec votre plan et avec sa mise en application. Parce que ça ne sera pas forcément efficace du premier coup, c'est même peu probable que ça soit efficace du premier coup si vous vous débrouillez seul et que vous n'aviez pas les ressources pour avoir un plan efficace au départ. Donc, il va falloir modifier ce plan. Et donc, il va falloir mesurer les résultats que vous avez eus avec votre plan pour pouvoir par la suite identifier ce qui va bien, identifier ce qui va mal, identifier si votre plan est bon ou pas. Mais mesurer, c'est un préalable à l'efficacité de votre plan. Si vous ne mesurez pas, vous ne saurez pas ce qui ne va pas. Si vous mesurez vos résultats, vous pourrez identifier par rapport à d'autres plans s'il n'y en a pas un autre qui serait plus efficace, peut-être, ou s'il n'y a pas des choses à modifier ou à améliorer. La sixième étape, l'étape 6, c'est de célébrer vos victoires. Toutes les victoires, les grandes victoires comme les petites victoires. Parce que vous devez avancer un pas à la fois sur le chemin. Et que le chemin, il peut être très très long, ou en tout cas, il peut vous paraître long, même s'il n'est pas forcément très long. À plus forte raison si votre plan n'est pas bon. D'ailleurs, il va être encore plus long, mais il va vous paraître long, forcément. Vous n'allez pas avoir des résultats après une séance de sport. Vous n'allez pas avoir des résultats après un bon repas. C'est pas possible. Ça prend du temps. Donc, il faut que vous célébriez toutes ces petites victoires. Le simple fait de vous être entraîné aujourd'hui, c'est déjà une petite victoire. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Peut-être. Sûrement, mais c'est déjà une petite victoire. Le simple fait d'avoir bien mangé ou de ne pas avoir bu votre verre de soda ou votre verre d'alcool dont vous aviez l'habitude, eh ben c'est déjà une petite victoire. D'avoir bu un verre d'eau en plus, ou de vous être couché un peu plus tôt, ou je ne sais pas, je vous balance plein d'exemples là, comme ça, un petit peu en vrac, qui n'ont pas forcément de sens, ou qui ne sont pas forcément tous à prendre. Mais faut comprendre ça, c'est l'importance de célébrer ces petites victoires-là pour rester dans le bon état d'esprit, pour rester dans un état d'esprit positif et qui avance. Vous devez avoir le sentiment d'avancer, vous ne devez pas avoir le sentiment de rester sur place et que votre objectif il s'éloigne de plus en plus. Parce que c'est souvent ce qui se passe, déjà si on a brûlé les étapes d'avant, forcément, mais c'est souvent ce qui se passe si on prend pas le temps de célébrer les petites avancées. Bien sûr que parce que j'ai fait un entraînement, j'ai pas atteint mon objectif et youpi, et super, c'est génial. Évidemment que non, mais j'ai fait un pas de plus vers mon objectif. Et même si c'est un tout petit pas vers mon objectif, j'avance quand même et je me rapproche quand même. Donc ça, c'est important de le célébrer à votre manière de le célébrer. Il ne faut pas que votre célébration ruine vos résultats. Hein. Il ne faut pas que parce que vous vous êtes entraîné, vous octroyez forcément un repas, vous faites n'importe quoi en vous disant c'est bon. Non, évidemment que non. Mais célébrez-le d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que simplement en vous félicitant, simplement en fin de journée en vous disant, ouais, je suis fier de moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai bien fait. Peut-être que je peux faire mieux demain, mais je l'ai quand même fait et je l'ai bien fait. La septième et dernière étape consiste à ajuster ce que vous faites, à ajuster votre plan et à continuer de le mettre en place. On vient de voir juste avant, dans l'étape 6, on fait un petit pas, on le célèbre. Dans l'étape 5, encore avant, on mesure ce qui marche et ce qui marche pas. Et ben c'est exactement ça. Ce qui va pas marcher, on va l'améliorer ou on va même l'enlever complètement. On va garder ce qui marche et on va essayer d'optimiser ce qui marche. Si vous vous rendez compte que certaines choses ne fonctionnent pas, que votre manière de manger ne fonctionne pas ou que votre manière de vous entraîner ne fonctionne pas, il faut la changer. Peut-être qu'il faut changer le plan dans son ensemble. Peut-être qu'il faut changer le plan entier. Peut-être qu'il faut changer juste certains paramètres. C'est exactement ça qu'on fait en coaching. En coaching, on a une méthode, on sait qu'elle marche parce qu'elle a marché pour d'autres personnes avant. Et il y a des particularités de chaque individu, des difficultés qu'on va rencontrer qui vont faire qu'on aura besoin de modifier des petits paramètres pour que ça s'adapte mieux et pour qu'on puisse continuer de le faire et pour qu'on puisse continuer d'obtenir des résultats. Peut-être aussi que votre plan, il a marché ou qu'il va marcher pendant un certain temps, mais qu'après, il ne marchera plus parce que vous aurez atteint les limites de ce plan. Dans ce cas-là, il faudra changer aussi soit le plan dans son ensemble, soit des éléments de ce plan pour avoir d'autres résultats. Parce que si on change rien, on obtient les mêmes résultats qu'on a toujours eu. Ça, c'est sûr. Donc, si vous faites un plan qui n'est pas destiné à vous apporter des résultats à long terme, il aura forcément une date de péremption de laquelle il ne fonctionnera plus et il faudra le changer, sinon vous ne pourrez plus avancer, vous ne pourrez plus évoluer. Il faut, dans l'idéal, avoir tout de suite le plan qui vous permettra d'obtenir votre résultat et de le maintenir surtout dans le temps. Ça, c'est le problème typiquement des régimes, c'est que les régimes, c'est un plan à court terme pour perdre du poids. Mais on ne se projette pas sur ensuite. Donc, ok, on a perdu du poids, et maintenant? Et après, je fais quoi? Ben après, je ne sais plus quoi faire. Et donc, comme je n'ai pas de plan pour la suite, j'arrête et je reprends du poids. Donc, il y a eu de la frustration et les régimes ne tiennent pas à cause de ça. Je prends l'exemple des régimes, mais il y a plein d'autres situations dans lesquelles on retrouve ce problème-là. Il faut que vous ayez un plan durable ou il faut que vous ayez des plans successifs. Et il faut que vous soyez en perpétuelle amélioration de ce plan, d'enlever ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus et d'optimiser ce qui fonctionne et ce qui fonctionnera. Ça, c'est nécessaire pour que vous puissiez réellement atteindre votre but, pas seulement vous en approcher, mais l'atteindre. Et une fois que vous l'avez atteint, votre but, en termes de poids, de forme, de silhouette, de santé, de ce que vous voulez, eh bien, il faut maintenir vos résultats. Donc, il vous faut un plan qui vous permette d'aller au-delà même de ce but, ou au moins de le stabiliser dans le temps et de faire en sorte que ça disparaisse pas, que vos résultats disparaissent pas. Avec ces 7 étapes, vous l'aurez compris que, ben, en fait, les résolutions n'ont pas de sens et c'est un des plus mauvais moyens finalement d'obtenir ce que vous voulez parce que vous êtes focalisé sur du négatif à ne plus faire au lieu d'être concentré sur du positif à faire et donc sur l'avancée. Là, on essaye de ne pas faire de bêtises au lieu de faire des bonnes choses. Faire des bonnes choses, c'est plus valorisant, c'est plus engageant, ça motive plus sur le long terme en vous concentrant sur un but qu'en vous concentrant sur des résolutions et sur des comportements à bannir. C'est plus facile de mettre du positif en place que d'enlever du négatif. Et le positif prendra forcément la place à un moment donné sur ce négatif qu'on veut enlever. Et encore une fois, il y a la différence entre un souhait et un objectif. Il y a la différence entre un résultat et un plan concret et des étapes pour obtenir ce résultat. C'est la différence entre des résolutions et un but. Ça veut juste dire aussi que bah, les résolutions n'ont plus lieu d'être et il n'y a pas besoin d'attendre une fin d'année ou un 1er janvier ou un 2 ou 3 janvier pour les plus en retard pour mettre en place des choses. Un but, ça peut se mettre en place n'importe quand. Le bon moment pour le faire, c'est quand vous sentez que c'est le bon moment. C'est pas un 1er janvier, c'est pas un début de mois, c'est pas un lundi non plus. On n'est pas obligé d'attendre un début de semaine pour le faire. Le bon moment pour mettre quelque chose en place, c'est le moment où vous sentez, vous, que c'est le moment. Ça va pas se caler sur le calendrier, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, ça serait le fruit du hasard. Mais heureusement qu'on n'attend pas tous le 1er janvier pour changer des choses dans notre vie. Heureusement qu'il se passe des choses entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il se passe des choses tous les jours. Chaque jour, c'est une nouvelle chance. Donc, le jour où vous sentez que c'est le moment, eh bien, c'est là qu'il faut mettre des choses en place et c'est là qu'il faut prendre votre résolution. Et pas une résolution parce que c'est le calendrier qui en a décidé comme ça ou parce que c'est la société qui a décidé qu'on prenait des résolutions au 1er janvier. Fixez-vous des buts et changez quand vous sentez que c'est le moment de changer. Si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site des Parents en Forme, aller voir les programmes, aller voir les coachings, voir comment je peux vous aider avec ça, soit sur une partie mentale, alimentation, physique, soit sur une prise en charge de l'ensemble pour votre plan. On peut en discuter aussi, envoyez-moi un email si vous préférez en discuter directement. C'est avec grand plaisir si vous avez besoin d'aide et j'espère que vous allez cartonner cette nouvelle année et obtenir les résultats que vous voulez atteindre. Les buts que vous vous serez fixés.